Présentement au studio Romarin, voici Fondrant.
Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements La Pierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animé par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute!
Salut les gars! Salut.
Bonjour!
Comment ils vont?
Ils vont bien?
Ça va bien? Aussi bien que tout à l'heure.
Ouais, hein? Parce que là, c'est la
place. Plus instruit, là.
Ouais, mais là, on va chercher encore une coche de plus.
On va s'instruire encore plus.
Ouais, ouais. Partie 2 avec Vincent Cloutier.
Ah ouais, mettre plein de nouveaux mots encore dans mon petit sac, ici.
Ouais, il t'en a sorti une coupe, hein?
Ouais, ouais. Des nouveaux mots spéciaux.
Ça déstabilise.
Ouais, c'est ça. Fait qu'on va écouter ça.
On va s'ouvrir une deuxième canette, puis on va partir ici.
Ouais, ben ouais. Un petit fondrait avec.
L'école des cantons.
Ouais. C'est parti.
On y va.
Bonne écoute.
Merci. Bonne écoute.
Maintenant, je lis beaucoup, je compile des statistiques, je parle à mes collègues, à mes confrères, consoeurs aussi de dossiers de financement X, Y, Z, ici au Québec, en Ontario, dans l'Ouest canadien. Donc, un ensemble de façons pour moi de rester à la page. Et puis, mon travail agricole de fin de semaine, je parlais du sirop au début, moi, ça me permet beaucoup de rester connecté sur la réalité agricole parce que c'était notre première saison de sirop à mon associé et moi. Et lorsqu'on a commencé ça, là, je ne sais pas, là, ça amène beaucoup d'humilité s'embarquer en agriculture. C'est pas facile. C'est pas facile de faire couler les érables puis de produire un beau sirop de qualité, là, tu sais, puis garder l'eau. Bref. Alors, gérer des fermes de l'ampleur des vôtres, c'est immensément plus compliqué. Ben, ma petite activité de fin de semaine m'aide à comprendre votre réalité aussi.
Oui, c'est ça, parce que là, tu sais, là, t'as le sirop, mettons. Là, c'est une production, mais tu sais, t'as des entreprises qui ont plusieurs productions ou qui ont plusieurs. Tu sais, ben, mettons, t'as les chats, t'as les vaches, puis tout. Y a-tu, selon toi, tu sais, d'après toutes tes années que t'as vues, y a-tu un point économique dans une entreprise que, selon toi, faudrait plus porter attention?
Deux choses. Je vais te répondre là-dessus. L'élément dont je parlais tantôt, éviter de naviguer à vue, donc savoir ce qui se passe, et être prêt à apprivoiser la nouvelle technologie.
Okay.
Ça, je pense que c'est fondamental. Ça fait 22 ans que je suis sur le marché du travail. Ça fait 30 quelques années que je suis en agriculture. La façon de faire de l'agriculture a changé fondamentalement. La technologie a pris une place fantastique. Au cours des 25 à 30 prochaines années, ça va rebouger aussi vite, sinon plus.
Ouais, c'est ça. C'est assez peurant comment ça peut aller vite.
Capoté comment ça va vite. Donc, il faut être prêt à absorber, à apprivoiser cette technologie-là. Et j'ai un grand garçon de 15 ans. Je le vois manipuler les outils technologiques avec une facilité déconcertante comparativement à son père. fait que sa mère est pas mal meilleure que moi, en tout cas. Bref, je trouve ça très sécurisant de voir la jeune génération qui est très habile avec tout ça, puis vous en faites partie.
Je suis d'accord que la jeune génération est vraiment plus habile, mais dans le domaine agricole, je pense que autant les jeunes que les plus vieux, il y en a autant qui veulent changer qu'il y en a d'autres qui veulent garder leur vieille façon de faire.
Ouais.
Je trouve, vu de l'externe, là, je trouve. Là,
qu'est-ce que tu veux dire, mettons?
Ben, vous avez vos méthodes, puis c'est dur les faire changer.
Ouais.
Ouais, ça dépend, c'est encore là, ça dépend.
Puis c'est encore pire avec vos parents, mais t'sais, vous avez encore du chemin à faire ouais, là-dessus, je pense.
Tu sais, on parle de technologie, là, on parle de GPS, moi c'est sûr que...
Tu te passerais plus de ça. Non.
Ben,
ça te tue.
Ça calcule à place de toi, premièrement. Puis mettons, si tu peux rajouter deux rangs sur X nombre de... sur un kilomètre, mettons, C'est du profit.
C'est du rendement. Là.
C'est du rendement de plus.
Mais ton premier GPS, as-tu pris du temps à amener?
Ah, j'étais. Premier GPS, j'étais pas sur la ferme.
Ok.
Tu sais, okay. C'est mes parents, mon père, mon oncle qui a amené ça tout de suite. C'est juste moi, je l'emmène encore plus poussé que.
C'est ça.
Tout ce calcul. Tu sais, c'est con.
Mais sûrement que ton père, il a fallu qu'il convainque.
Ouais, mais comme là, moi, tu sais, je me fie un peu à l'écran, mettons, on va dire, pour le nombre d'outs que je fais. Mais sur le sommoir, il y a encore une vieille roulette, tu sais. Tu sais, mon père, puis moi, je me fie quand même à ça, vu que j'ai appris de mon père, tu sais.
Ouais, c'est
ça. Si tu dis ça, je vais tout le temps le garder.
Mais c'est une autre grande force de l'agriculture aussi, cette complicité-là entre générations, tu sais. Ouais. Moi, il y a plusieurs de mes bons amis qui sont agriculteurs, tristes. Ils ont dans la quarantaine comme moi et ils font équipe avec leurs parents là, qui ont entre 65 et 75 ans. Mm-hmm. Et cette équipe-là, cette complicité-là, elle est fondamentale aussi. Peut-être pas toujours facile à gérer au quotidien, on s'entend, là, tu sais. Mais ça fait partie des atouts de l'agriculture.
Tu sais, comme moi, admettons que c'est mon oncle qui est en train de planter le maïs, mon frère est en train de passer du vibro, là, il y a un problème, mettons, sur le GPS, quand même un des deux, ben c'est moi qui ai un petit peu, on va dire, le gars de GPS dans...
Mais dans le fond, il m'appelle moi, puis
ouais, c'est ça. En tout cas, non, mais tu sais, c'est moi qui vais régler un peu le trouble, là, puis tu sais, que ce soit mon oncle qui a une 60 années, que mon frère qui a la même âge que moi... T'sais, les deux sont pareils, ils ont le même problème, mais c'est moi qui vais les... T'sais, c'est non, juste la connaissance, puis la... T'sais, dans le fond, moi, je me tiens un petit peu plus à jour, puis c'est tellement... Quand tu connais ça, là, c'est tellement facile,
ouais.
Mais quand que tu sais pas le problème, là, c'est la...
Au monde. Parce qu'on joue pas souvent avec, t'sais, ouais, semer, on plante une fois par année. La fois d'après, jours, quand tu jours. Retournes, c'est un an après, là. Puis ce qui peut être une restriction, si on veut, de vouloir investir dans la technologie, c'est parce que ça a un coût qui est pas tout le temps facile à justifier non plus. Là.
Ben, on s'en parlait tantôt, c'est un des grands défis de soutenir le coût de la technologie. Puis les données d'Agriculture Canada, là, c'est ça qui suggère, c'est ça le message qu'il lance, c'est ce coût élevé-là que le revenu ne justifie pas tout le temps, puis qui fait en sorte que les meilleurs réussissent à générer suffisamment d'excédents pour supporter ça. Une espèce de pression de cercle pressurisant. Je ne veux pas parler de cercle vicieux, là, mais de cercle pressurisant qui tourne depuis la nuit des temps. Je ne veux pas être négatif, mais ça ne s'arrêtera pas.
Non.
Mais tu sais aussi, tu disais qu'on est aussi on est plus ben, multitâche. Tu sais, mettons... On peut faire, dans le tracteur, t'as le GPS, tu checkes un petit peu moins, faut que tu checkes tes affaires. Mais tu sais, tu peux calculer des affaires faciles, mettons, tu marques ça sur une feuille, mais avant, tu regardes en avant, faut que tu sois à ton marqueur, faut que tu pouvais rien faire ça, tu sais, là, tu tombes un petit peu, je dis pas que t'es 100% multitask, c'est juste que t'es capable d'en faire un petit peu plus.
Et voilà.
Puis t'es moins fatigué à la fin de la journée, parce que t'es un peu moins concentré, moi je dis, mettons.
Au fur et à mesure que les années passeront et que la technologie s'améliorera et en fera un petit peu plus, ça va être doublement vrai, ce que tu dis là. Donc ouais, ça fait partie de la game.
Et tu conseillerais-tu, de même si c'est pas facile ces derniers temps, de continuer à investir dans la technologie tout le temps un petit peu à place d'arriver à un trop gros gap à un moment donné que là, c'est quasiment pas réalisable? Es-tu tout le temps mieux de se mettre à jour dans la technologie?
Tu sais, à quel moment chaque move doit être fait petit à petit ou en batch, ça, il n'y a pas de recette unique. Mais suivre la parade, demeurer efficace, s'assurer de rester à la page pour que les entreprises soient transférables et intéressent la prochaine génération.
Ouais.
C'est fondamental, bien évidemment. Et c'est un défi de tous les jours parce que ça change tellement vite, débile.
C'est pas juste de l'avoir, la technologie, c'est de l'utiliser à 100% des fois qui est plus difficile. T'sais, on a des GPS, des capteurs de rendement, mais c'est d'utiliser ces données-là. C'est pas juste de l'avoir, c'est beau avoir une belle carte avec des couleurs dessus, là, mais c'est de faire de quoi avec ces données-là
ouais.
qui, qui est des fois, ouais, c'est le fun, okay, mais il faut que je fasse de quoi avec ça. Il faut que ça soit rentable, je vais payer pour ça, il faut que ça soit rentable, puis ça me revienne cette donnée-là.
On parlait de statistiques tantôt, depuis 2002, tu as commencé là-dedans, mais mettons que nous autres, on va dire qu'on a commencé en 2010 à les GPS et tout, mais tu peux savoir ta carte de rendement en 2010, quand tu as semé du maïs à telle place, tu peux revenir. C'est ça qui est intéressant avec le GPS, c'est que cette année-là, j'ai semé cette variété-là à telle population. Tu sais, des fois, tu l'écris sur un papier tout comme même, mais tu le perds. Tandis que là, tout est encore enregistré, soit sur un ordi.
Des nuages.
Des nuages. De...
Yeah. Il y a une expression anglaise qui dit « If you can't measure it, you can't manage it ». Donc, si tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas l'améliorer. Des outils comme ça permettent évidemment d'avoir un portrait clair de ce qu'on fait année après année et d'en tirer profit. C'est ce que vous dites tous les deux, messieurs.
On en a parlé un peu, la technologie, ça va être un gros facteur d'investissement pour les entreprises agricoles, mais quels sont les autres gros enjeux pour une entreprise agricole dans les moyens court terme puis ceux dans les longs termes?
Ouais, ben je dirais l'environnement d'affaires change. Certains des grands risques fondamentaux, là, moi, que je vois comme étant plus important au cours des prochaines années qu'au cours des dernières années, le risque climatique, donc une variabilité climatique croissante qui va... Mais moi, j'ai été fasciné après l'été pluvieux qu'on a eu. Le maïs puis le soya au Québec n'a pas été spécifié.
C'est quand même bien sorti.
Les petites céréales, ça a été du fumier. Là.
Mais bref. Bien dit.
Donc, le risque climatique. Le risque géopolitique, moi, je trouve ça très désolant de voir l'état géopolitique de la planète. Mm-hmm. Clairement, la planète est plus potentiellement explosive là qu'elle l'était au cours des 30 dernières années. J'ai l'impression qu'on retourne un peu dans un environnement de guerre froide qui a pris fin à l'époque où j'étais petit gars. Là, je suis un modèle 79. Et puis, de revoir ça, cette espèce de méfiance entre l'Est et l'Ouest, je trouve ça un petit peu désolant. Et pour nous, qui sommes de grands exportateurs, on est potentiellement exposés à ce risque-là. Gérer une transition énergétique aussi, c'est vrai pour tout le monde. En agriculture, comment se fera-t-elle et à quel rythme se fera-t-elle? Moi, je ne vois pas encore le jour où des monstres de 600 forces vont fonctionner à d'autres choses qu'au pétrole. Mm-hmm. Est-ce que l'hydrogène, dans quelques décennies, sera une solution à ça? J'en ai aucune idée, mais ça prendrait des batteries grosses en chien pour faire runner un cheval de 600 forces. Mais bref. Donc, il y a un ensemble de risques supplémentaires, de défis à venir qui vont être relevés par une relève agricole motivée et bien formée puis intéressée. Et c'est ce qu'on observe sur le terrain maintenant.
Parce que tu as parlé de tout ce qui est environnemental peut avoir un enjeu, puis il va y avoir de plus en plus de législation environnementale aussi. Ça, penses-tu que ça peut être un enjeu aussi sur la rentabilité des fermes?
Je suis content que tu soulèves le point. J'aurais dû l'amener à la réponse à la question précédente, parce que même si ça passe pas par des législations, les pressions sociétales sur ce qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance, donc faire mieux, faire plus avec moins, respecter encore plus notre environnement. On entre dans l'ère de la gestion de l'empreinte carbone. On n'a rien vu de ça non plus.
Ouais,
donc oui, cette pression-là, elle va être de plus en plus grande et ça fait partie de ce que j'appelle de ce que j'appelais plutôt le cercle pressurisant. Mm-hmm. Mais je ne veux pas l'appeler un service parce que... l'agriculture est un beau secteur d'activité. J'aurais aimé en être l'un des artisans. J'en suis un acteur externe, je dirais. Mais c'est un secteur d'activité solide qui va bien malgré tout, malgré une passe un petit peu plus difficile. Et ce genre de défi-là, on va le relever comme on en a relevé d'autres.
Parce que, aussi, c'est ça, on a des normes environnementales, nous, au Québec, qui sont différentes de nos voisins. Il faut compétitionner ce marché-là en même temps. Là, le prix des grains, c'est le prix à la bourse. Hein.
C'est clair, les coupes de porc mises en marché au Québec, c'est vendu sur la base d'un indice nord-américain. Mm-hmm. Maïs, puis de soya, puis de blé, c'est transigé à Chicago. On aurait pu parler de bien d'autres denrées. Donc oui, cette espèce d'équilibre-là entre d'avoir un environnement réglementaire, un qui va sécuriser la population, parce que tu veux dire, moi, avec mon auto, je ne sais pas ce que je veux non plus, puis on vit tous dans un environnement réglementaire quelconque. Là. Mm-hmm. Des fois, ça va peut-être un petit peu trop loin, trop vite. Il faut trouver ce bon équilibre-là. Et en même temps, il faut que ça nous permette d'être compétitifs. Parce ouais, que l'argent parle, money talks, comme disait Molière. Mm-hmm.
Mais si tu, quand on parle de la crise agricole en ce moment, là, c'est-tu une accumulation de toutes ces petites affaires-là qu'on parle depuis tantôt qui fait que là, il y a du monde qui s'en vient de tanner, ou c'est vraiment, c'est-tu l'effet de les normes qui sont encore plus imposées?
Je vais te dire ce que moi je vois puis j'entends. On sort d'une couple d'années de revenus agricoles nets records. Là, les pressions actuellement, là, les taux d'intérêt, ça touche tout le monde. Ça vient nous frapper. Puis les citoyens dans l'économie aussi, les emprunteurs, etc. Mm-hmm. Et l'année passée, dans le port, ça a été l'année la plus financièrement négative là, à l'échelle mondiale depuis nombre d'années. Donc, cette pression-là, elle se vit à travers donc, les intérêts. Le port, moi, j'entends beaucoup parler, puis je le constate aussi chez certaines entreprises. Un été 2023 qui a été très difficile, mouilleux. Il a mouillé d'un bout à l'autre en juillet, là, tu sais, puis la position maraîchère a été fortement affectée. Mm-hmm. Et si vous avez entendu parler de beaux champs de petites céréales au Québec cette année, vous étiez probablement en Abitibi-Témiscamingue. Hey, je suis arrivé en Abitibi à la fin du mois de septembre, puis comment ça a été, petites céréales, cette année? Beau! C'était beau. Mais oui, ça a été chaud et sec. Ouais. Là-bas, tu sais. Mais dans le reste là, du Québec, ça a été très ordinaire, voire du fumier, comme on se le disait tantôt. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui créent une espèce de build-up. C'est quoi l'expression française pour ça? Je ne suis pas sûr, mais bref. Et il y a un vase qui déborde un petit peu là, présentement.
Tu as parlé de maraîcher un petit peu. J'ai un producteur maraîcher, moi, qui m'avait dit... Cette année, tu sais, il s'est tout passé, là, les maraîchers. Il a gelé au printemps, il a mouillé. Ouais. Ils n'ont pas été capables de passer pour faire les traitements dans les champs. Puis il m'a dit, moi, cette année, je travaille pour essayer de perdre le moins d'argent possible. Il dit, je sais, cette année, j'en ferai pas. Il n'y a pas eu l'augmentation du prix comme les grandes cultures, quel prix a monté. Les prix ont, oui, un petit peu augmenté, mais pas par rapport au coût des intrants. Là. C'était rien qu'un petit point que je voulais emmener. Puis... On n'a pas parlé tant que ça non plus, mais le prix des terres, au Québec, on entend de toutes les sortes. Là. Comment qu'une relève aujourd'hui qui veut démarrer peut arriver avec l'augmentation du prix des terres? Comment qu'une relève peut démarrer?
Moi, avant le début de l'année 2023, là, je la regardais aller cette année-là. Je voyais les taux d'intérêt, je voyais les marges dans certaines productions qui serrent un petit peu. Je me disais... prix des terres va augmenter cette année, mais peut-être un petit peu moins que les années précédentes. Qu'un cloutier, tabarnouche, que tu pensais. 2023, la valeur des terres a augmenté, je ne me rappelle pas si c'est 11, 12 ou 13 % au Québec, mais a augmenté de façon impressionnante. Il y a une province au Canada où la valeur des terres a diminué, c'est en Colombie-Britannique, mais dans la vallée de la Fraser, il y a une grosse production laitière là, et faire de la luzerne sur des terres à 100 000 piastres de l'acre, ça devient un petit peu serré. Le prix du lait n'est pas si différent là-bas qu'ici.
C'est ça. Non.
Fait que, mais bref, ici, augmentation de 11, 12, 13 %. Je me dis, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? T'sais, Manu, qu'est-ce que ça va prendre pour que la croissance slack un petit peu? Là, t'sais? Or, ce qu'on réalise, un actif de très, très grande qualité, et il y a encore un certain nombre d'entreprises qui ont les reins suffisamment solides pour croître et la volonté de de croître, puis ça prend pas 50 intervenants qui veulent un lopin de terre pour que le prix se maintienne, va augmenter, ça en prend deux.
Ouais, c'est
et
ça.
Manifestement, il y en a deux, des fois trois. Fait que c'est ça qui se passe. Maintenant, pour revenir à ta question, ça enlève rien à la complexité du défi, et c'est pour ça que l'ordre de transfert, souvent, ce n'est pas transféré à la valeur marchande, mm-hmm. hein, on le sait. Et puis, il y a toutes sortes de modèles différents. Puis ça, la communauté agricole n'aime pas ça quand je sors ces chiffres-là, mais c'est des faits, ça ne vient pas de moi. Statistique Canada observe depuis à peu près 25 ans, là, à travers les recensements successifs. En fait, on est rendu à 96, ça fait 26 ans. 6 recensements de suite. Tu es un modèle 96. Hein?
Ouais. Ah, donc, ça fait, on ça est fait tous des modèles. Bah,
ça fait 28.
C'est un bon millésime. C'est vrai, on est rendu à 28. Il est tard. Hein? Alors bref, après 6 recensements, la proportion de terres qui sont louées d'autrui augmente constamment. Mm-hmm. Donc, il y a une proportion croissante de terres agricoles qui ne sont pas possédées par ceux ou celles qui les exploitent. Puis je sais très bien, là, je suis dans le milieu depuis des décennies, qu'être propriétaire de ces actifs, c'est viscéral et important. Je comprends tout ça. En même temps, je vois des indicateurs qui montrent que dans certains cas, ça évolue différemment. Moi, ce que j'en conclus, la recette unique, elle n'existe pas. Et il y a des producteurs tristes qui ont des modèles d'affaires X, Y, Z dans différents secteurs de production. Et ça fait partie de la beauté du secteur agricole.
Ça serait-tu mieux, de louer une terre que de l'acheter?
Dans certains cas, je te dirais probablement. Tu me demanderais, Vincent, dans quel cas, je ne sais pas.
Ouais, non.
Il y a toutes sortes de situations, mais il y a beaucoup de producteurs qui louent des terres. Je sais, les données parlent d'elles-mêmes. Là. Et c'est bien correct. Il y a des producteurs de porcs qui possèdent leurs troupeaux, d'autres qui possèdent leurs bâtiments et qui élèvent des porcs à forfait. Mm-hmm. Ce sont des modèles d'affaires A1 pour ceux à qui ça convient. Il y en a qui préfèrent ça différemment. Il y a des naisseurs, des finisseurs, etc. Bon, bref, la recette unique n'existe pas. Il y a un zillion de recettes qui marchent, par exemple. Puis on le voit depuis bien, bien des décennies parce que même si les années ne sont pas toutes faciles, les chiffres sont têtus. L'agriculture est un secteur d'activité solide.
T'as-tu une idée un peu? J'ai dit le prix des terres est rendu cher, mais mettons une terre à 20 000 $ de l'or, ça représente quoi d'intérêt?
Écoute, dépendant de la région, là, puis tu l'amortis sur 25 ans, là, tu regardes la charge d'intérêt, tu dis, ça va prendre des rendements assez extraordinaires de 32 tonnes par hectare.
Ouais, juste pour payer des intérêts.
Bon, puis là, on se dit, on regarde ça, le payback est de 722 ans, encore une fois, je blague là. Mais, tu sais, ce que ça signifie, tu sais, je veux dire, la volonté des entrepreneurs agricoles de réinvestir leur argent dans leur business chez eux, elle est extrêmement puissante. Hein, et ça passe à travers la terre, cet attachement-là. Et parfois, cet attachement-là défie des règles économiques et financières, puis c'est ce que l'on voit là. Alors, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé sur le marché du travail, au début des années... Ça fait plusieurs fois que je dis ça, là, ça ne me rajeunit pas. Mais à l'époque, ça avait-tu pas de bon sens d'acheter du coton de lait à 15 000
$? Ah
oui,
c'est ça.
T'sais, aujourd'hui, à 15 000 $, ça va, je l'arrête tout
de suite. Oui, c'est ça. Avoir ici.
Oui.
Tout le temps, ça.
C'est tout le temps plus facile par après.
Et c'est ça, là, on parle. Tu sais, la relève aujourd'hui, là, Dan, il décide d'un matin, là, la passion il pogne de l'agriculture. Là, il s'en va dans quelle production pour réussir à vivre de l'agriculture?
Ouais. Il fut un. Ça doit faire une dizaine d'années. J'étais dans une salle à Sainte-Marie-de-Beauce. Une salle réunie par la coop Unicoop à l'époque. Puis on était 205. Puis après ma conférence, il y en a un qui me demande, dis-toi là, il me demande ça de même, t'investirais-tu dans le lait, toi? T'achèterais-tu du coton? Puis je me rappellerai toujours ce que j'ai dit. J'ai dit, monsieur, si j'étais bon, là, j'investirais dans le lait. Ce que je veux dire par là, Si j'étais bon dans le porc, j'investirais dans le porc. Puis si j'étais bon dans le sirop d'érable, mieux que ce que j'ai réussi à faire, je le ferais. Parce que les producteurs de porc qui produisent 30 puis 32 petits cochons par truie, puis les producteurs de lait qui sont sur la coche, puis les producteurs de grains, producteurs tristes, bref, il faut être performant pour réussir dans ce secteur d'activité-là, comme dans les autres aussi. Et j'observe qu'il y a de belles opportunités d'affaires dans un grand nombre de secteurs, à la fois les secteurs internationalisés, je pense au bœuf, puis je pense aux grandes cultures, puis je pense au porc, et à la fois les secteurs suggestion de l'offre aussi. Le lait a été pressurisé au cours des dernières années par les trois grands accords commerciaux, l'accord avec l'Europe, le PTPGP, et plus récemment, la CEUM. Quand ils vont être les trois mis en œuvre, je pense qu'on peut entrevoir une relative paix commerciale à cet égard-là. Donc, on va se réapproprier la croissance du marché canadien. La gestion de l'offre est solide. On va pouvoir répondre aux besoins du marché canadien de façon, comment dire, un petit peu plus stable. Bon, fait à la fois dans ce secteur-là et comme dans d'autres, il y a des belles opportunités. Mais est-ce que tu es bon? Ouais. Est-ce que tu es bon? Si la réponse est comme moi, là, non, pas trop bon. Investis pas là-dedans. Si tu es bon,
c'est d'être performant dans ce que tu veux
t'en aller. Pas juste sur un investisseur, faut que tu sois un passionné.
Ouais. Ouais, c'est ça.
C'est clair.
Pas juste passionné, il faut que tu sois bon aussi.
Aussi.
On disait au début, là, partir, t'sais, démarrer une ferme laitière de taille moyenne, c'est environ 10 millions. Dan, il va le chercher où, c'était 10 millions-là?
Non, John, tu connais pas mes chiffres.
Hein? Mettons, là.
Ouais. Mais moi, j'entends, puis tu sais, je vois bien le défi, là, tu sais, je veux dire, moi, ça m'intéresserait, mettons, puis j'aurais pu être dans cette situation-là, moi aussi, à l'époque. J'ai fait des choix différents, puis au risque de me répéter, je les regrette pas, mais tu sais, bon, ça prend... Une ferme, la valeur marchande d'une ferme laitière moyenne, ça se chiffre dans les millions, ça prend une bonne équité pour réussir à attacher un financement. Mm-hmm. J'ai pas 2 puis 3 millions, au contraire de Danny. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en revanche, moi, je vois toutes sortes de belles histoires à succès, des grands amis avec qui je suis allé à l'école, à l'université, ils sont maintenant producteurs laitiers au Bas-Saint-Laurent, transfert non apparenté, puis j'ai un collègue qui se reconnaîtra peut-être à travers l'artère, tente d'établir des liens avec un producteur agricole qui n'a pas de relève, mais qui en veut. Donc, des histoires comme ça pour assouvir les passions de ceux qui ont des passions fortes, Il y en a. Ce n'est pas facile, par exemple. Pourquoi ce n'est pas facile? À cause de ce qu'on évoque là, ça prend énormément de capital pour générer du revenu en agriculture. À cette heure, ce défi-là, il a été relevé bien des fois au fil des années. Il va continuer d'être relevé et tout. Ça n'enlève rien, excusez-moi, à la grandeur de ce défi-là.
Oh, tu parlais un peu du porc tantôt. Tu as été dans le secteur du porc, tu as travaillé là-dedans. C'est quoi qui s'est passé dans le port? Pourquoi on a parlé de crise dans ce secteur-là aussi? On a reçu Louis-Philippe Roy à notre premier épisode de la saison 2. Il en a jasé un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé?
2023, là, la rentabilité, donc valeur des coupes, prix des intrants, a été la pire qu'on ait jamais vue dans l'histoire du port à l'échelle mondiale. Donc là, il n'y avait pas de rentabilité à l'échelle de la production. Pour toutes sortes de raisons, les grains étaient extraordinairement chers et une Chine qui s'est relevée plus rapidement qu'on pensait de la peste porcine africaine, qui importe un peu moins. La Chine est le gros joueur sur le marché des imports. Bon, alors là, un contexte qui est fait qu'il n'y a pas de rentabilité. Et en même temps, Olimel dit, moi, là, je veux m'affranchir de certains marchés qui ne sont pas suffisamment rémunérateurs, des marchés de commodités sans trop de valeur ajoutée. Je veux sortir de là et me concentrer sur mes meilleurs marchés à valeur ajoutée. Donc, plutôt que d'abattre X millions de cochons par année, je vais en abattre moins. Fait que là, ben, ça veut dire si Olimel abat moins de cochons, ça veut dire qu'il faut produire moins de cochons. Mm-hmm. Donc, ce contexte-là de très faible rentabilité à l'échelle mondiale, chez nous, ici, a été marqué par aussi la décision d'Olimel, notamment, de diminuer significativement ses achats de porc. Fait que là, la tempête était très, très parfaite, là. C'est un pléonasme, très parfait. Puis c'était vraiment, vraiment pas évident. Maintenant, au moment où on se parle, il y a la pointe de l'iceberg de la rentabilité qui commence à revenir. Là, tu sais. Le prix des grains s'est calmé. Le prix du porc reprend sa tendance ou poursuit sa tendance saisonnière. Le prix du porc est meilleur l'été qu'à l'hiver. Fait que là, on le voit augmenter. On espère vivement qu'il va poursuivre sa croissance saisonnière de façon à ce qu'on puisse avoir, à ce que la communauté porcine puisse profiter d'une bonne année porcine. Mais tu sais, des belles années dans le porc, il y en a eu. Des années bien tough, il y en a eu. 2023 en est une.
Ouais.
C'est le propre des secteurs agricoles, mettons, exposés à la réalité internationale. On aurait pu, tu sais, si on avait été en 2002, 2, 3, 4, là, tu m'aurais demandé, Vincent, il se passe quoi dans le grain, tabarnouche? Il n'y a tellement pas d'argent dans le grain. Bon, là, on est un peu sorti de ce pattern-là, bien que la rentabilité envisagée pour 2024 soit plus mince que les années précédentes. Donc, ça fait partie, tu sais, c'est des cycles, ça tourne, puis j'en reviens toujours en concluant que si boulot avec nos politiques agricoles, on est bien équipés quand même. Là. La gestion de l'offre qui protège 37 % de nos revenus agricoles a fait un job en, s'il vous plaît.
Tu parlais de l'Olimel qui ont décidé de couper dans des secteurs. Ils ont, dans les années précédentes, ils ont quand même décidé d'acheter F Menard. Ça a été un gros achat. Tu sais, c'est un modèle qui roule quand même bien. Mais pourquoi ils ont décidé d'acheter ça quand ils, en fin de compte, ils ont décidé de changer un peu le modèle, puis de, tu sais, ça roule plus comme que ça roulait avant, puis là c'est les producteurs qui écopent de ça.
Je vais te laisser poser la question aux gens de l'email et ou de Solio.
Ouais.
Est-ce que Olimel aurait dû ne pas acheter Menard? Est-ce que Menard a été payé trop cher? Je veux pas jouer non plus là-dedans au gérant d'estrade. Maintenant, ce que je sais, c'est que l'industrie porcine, elle est pas facile, elle est rude et qu'il y a des gros joueurs dans l'industrie porcine mondiale, que ce soit Danish Crown au Danemark ou Smithfield aux États-Unis, qui est maintenant propriété de WH Group, une entreprise chinoise, qui ont traversé des moments tough. T'sais. Alors, qui suis-je pour les juger? Je suis celui qui fait confiance à la communauté porcine québécoise, de la production à la transformation, à la surtransformation, puis j'aurais pu parler des meuniers. On a une filière solide qui produira plus et n'abattra plus 7 millions de cochons par année, probablement plus 6. On s'en va vers ça, c'est la cible, 6,3. Mais il y a les fondements pour une belle industrie porcine au Québec. On a ce qu'il faut, notamment une production de grains aussi, parce que c'est important. Là, t'sais. Puis une expertise humaine qui est sur la coche.
Je trouve ça spécial que tu parles de 7 millions à 6 millions de porcs quand la population mondiale fait juste augmenter, qu'on descende notre production. Je trouve ça assez spécial, mettons. Je trouve que ça ne fit pas avec le décor.
Ça ne fit pas avec nous autres non plus, tu sais. Avec nous autres, on va dire, avec... tu veux tout le temps grossir. Ben, en tout cas, un chef d'entreprise veut tout le temps grossir, peut-être.
Ouais.
Tu sais, si on veut... Là, il
diminue, on plafonne.
Ouais, là, il plafonne, tu sais.
La question est bonne. La viande dans... Quand on regarde le portrait planétaire, là, la viande qui a le vent dans les voiles, pour un bon nombre de raisons, là, c'est le poulet.
Okay. Mm-hmm.
La consommation de poulet, elle augmente ici depuis toujours, alors que dans les pays industrialisés, notamment ici, la consommation per capita de bœuf et de porc décline. Elle augmente dans d'autres pays, mais je poursuis la réflexion. Nous autres, on exporte beaucoup de porc aux États-Unis, soit. On en exporte pas mal au Japon aussi, mm-hmm. mais la population au Japon est en diminution importante.
Okay.
Importante. Donc, il y a un défi pour nous là-dedans. Et bref, tu sais, que ce soit l'évolution de la population, des religions, du niveau de vie des gens, l'empreinte carbone, la conversion, etc. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui font en sorte que le poulet a le vent dans les voiles. Est-ce que je suis en train de dire « sortons du porc puis sortons du bœuf, il n'y a pas d'avenir là-dedans » Pas en tout. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. Pourquoi je suis d'avis qu'on doit continuer en tant qu'agriculture canadienne à être présent dans le porc et dans le bœuf? Parce qu'on est bon. On est bon. On n'a pas forcément le plus faible coût de production. Dans le Midwest américain, puis dans certaines régions du Brésil, ils ont des coûts de production là, qui sont vraiment bas. Mais on n'a pas besoin d'être le plus bas. On a besoin d'être dans le peloton des meneurs. Nous sommes dans le peloton des meneurs en termes de coûts de production, puis en termes de qualité de produit, on est probablement le meilleur.
Dans l'agriculture, l'empreinte carbone, vous avez-tu commencé à le voir pas mal? Tu sais, moi, dans mon domaine, il y a déjà des clients qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait pour diminuer notre empreinte carbone ou comment qu'on fait pour mettre à neutre le carbone qu'on produit. Ça se sent-tu dans l'agriculture? Ou...
Oui, Danick. C'est clair. Nous, en tant qu'institution financière, je ne doute pas que c'est la même chose dans d'autres, là. C'est rigoureusement compilé, puis on a des cibles. Et tranche de vie, j'ai moi-même été appelé à évaluer l'empreinte carbone de certaines productions agricoles. C'était pas ça au début de ma carrière, là.
Non, c'est ça.
Au cours des 20 prochaines années, si je fais ce métier-là encore une vingtaine d'années, ça va prendre encore plus de place. Donc, la réponse, c'est oui, mais on n'a rien vu de ça encore.
Okay.
Rien.
Alors, on revient un peu au sujet des terres. Mais à propos des investisseurs qui achètent des terres, mais qui, dans le fond, ils vont les exploiter, moi, pour arriver à d'autres fins. Tu penses qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure réglementation pour eux?
Moi, je me dis, mettons les quelques cas où ça se produit, là, probablement, c'est des terres qui sont acquises par quelqu'un qui espère un dézonage rapide. plutôt que de les taxer avec le taux de taxe agricole, taxons-le sur le taux de taxe municipale d'habitation.
Wow!
Ça va peut-être...
Ça va peut-être les briquer.
Bon, non, mais je veux dire...
Ça va les inciter au moins à les cultiver.
Ben voyons. Donc, c'est moi, tu sais, la vocation agricole des terres, c'est fondamental. Je suis un gars de Québec, mais j'habite à Boucherville. Et il y a des terres au cœur de Boucherville qui sont en friche depuis que je connais Boucherville. Ça n'a pas de juron catholique de bon sens.
C'est des belles terres, en plus. Hein?
Ben, tu sais, voyons donc. Là. Fait que, ça m'apparaît être plus l'exception qui confirme la règle parce que l'essentiel des terres agricoles au Québec, situées en région agricole, rurales, sont rigoureusement cultivées. Puis c'est important. Moi, je suis le premier à croire dans la vocation agricole des terres. Et assurons-nous qu'on exploite ces terres-là, bien sûr.
On a parlé dans le dernier épisode, on a reçu David Beauvais, le président de la Fédération agricole, puis on disait, t'sais, on n'a pas des terres à l'infini là, au Québec. Là. Fait que c'est plate de voir ça, comme tu dis, en friche, puis ça ne sert de rien. Là. T'es quand même...
Taxé comme qu'il veut le faire.
Il y a à peu près 2% de la superficie agricole québécoise qui est cultivable. Je veux dire, c'est
2%,
c'est une richesse extraordinaire.
Ça ne fait que diminuer aussi. Ouais.
Puis, mettons, dans vous autres que je connais, il n'y en a pas un qui a couper une terre pour bâtir une maison pour votre élève ou quoi, à la place vous achetez d'autres terres, il y a une maison dessus, puis c'est réglé.
Une maison déjà bâtie.
Ouais. On n'est pas des constructeurs.
Mais tu sais, à l'inverse, tantôt, tu disais que ça prend 722 ans.
Je blaguais, mais tu sais.
C'est quand même c'est malheureux que ça prend autant de temps à des agriculteurs de rentabiliser cette terre-là versus l'autre qui est comme...
Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais c'est pas... nous autres aussi, on pourrait faire ça. Ben, on peut plus à cause de la loi en 78, ça.
Ouais, mais il y en a qui le font pareil.
Ouais, je sais, mais.
Ils réussissent à
contourner les. Ben,
mais c'est avec l'étalement urbain, là. Tu pourrais pas faire ça sur tes terres à Saint-Ours, là. Tu pourrais pas développer de même. Mais c'est qu'ils s'attendent que le développement.
Sur le bord de...
du village.
Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux pas partir un. une autre ville en plein milieu du Rhin, mettons, on va dire.
Mais il y a eu une génération visionnaire. Elles le sont toutes, là, mais bon, tu sais, je veux dire, la loi sur la protection des activités agricoles qui date de 1978, effectivement. Même moi, je n'étais pas né. c'est un joyau. Là, bon, j'ose espérer que ce genre de législation-là va perdurer dans le temps. Je veux dire, c'est une prunelle de nos yeux.
Cette loi-là est arrivée, c'est parce qu'il y en a d'autres avant eux autres qui en ont profité ou qui ont exagéré aussi.
On parle de 78, es-tu encore à jour? Comme bien d'autres règles qui n'étaient peut-être plus à jour.
Il y a eu des conversations récemment, une consultation publique visant à... j'ai pas suivi le dossier, mais fait que je pense que tous les outils, qu'ils aient 5, 10 ou 40 ans, là, tu sais, faut qu'ils soient questionnés. Là. Ouais. Mais pensons à la gestion de l'offre, elle a 60 ans ou à peu près, elle change, elle évolue au rythme des attentes des marchés et de ses acteurs et de ses constituants. Elle n'est pas stoïque. Les autres outils réglementaires ne doivent pas l'être non plus.
Oui, c'est ça. C'est beau qu'une loi soit émise, mais il faut qu'elle suive la ligne du temps. Puis,
qu'elle s'adapte.
Qu'elle s'adapte, c'est ça, au changement qu'on a. Parce c'est sûr, il y a de plus en plus de monde sur la planète. Il faut loger du monde, mais... C'est plate, justement, qu'il y a des investisseurs, puis ils les cultivent même pas, en plus, les terres. Il y en a que oui, mais il y en a que non. C'est ça qui peut faire augmenter le prix des terres aussi, là, dans ces régions-là.
Vincent, en tant qu'analyste, tu dois aimer ça, cette question-là, dans ta boule de cristal, dans les prochaines années, là, pour toi, mettons, là, tu continuerais à investir, puis à croire dans quel secteur?
CEO.
je dirais, si j'étais bon dans le lait, j'investirais dans le lait.
Ouais.
Si j'étais un bon producteur de porc, j'investirais dans le porc.
Ouais.
Si j'étais un bon producteur de sirop d'érable, colline que j'aurais une belle érablière. J'en ai une belle, mais une petite érablière coquette et on s'entend. Là,
un vois, hobby.
300 chaudières, pour l'instant. Bon. Alors, je pense qu'il y a des belles opportunités dans un... bon nombre, voire tous les secteurs de production.
Okay.
L'efficacité, la rigueur opérationnelle et de gestion sont absolument nécessaires et il n'y a pas de secteur facile, il n'y a pas de secteur où, j'ai parlé des grains, il n'y a pas de secteur où le laxisme est permis.
Ouais.
Puis il n'y en aura pas plus dans le futur parce que vous êtes la société et la communauté agricole, elle est pressurisée financièrement par l'équilibre entre le revenu puis les dépenses. On le voit cette année. Là.
Ouais.
On le voit cette année. Mais aussi une espèce de double pression qui arrive à cause des enjeux de SG dont on parlait plus tôt. Fait que là, conjuguer ces pressions-là, réussir à continuer de faire de l'argent, il faut être au top de son métier. Il faut être sur la coche. Alors, si j'étais sur la coche dans le lait, j'investirais dans le lait. Et ainsi de suite.
Toi, tu serais dans toutes les productions, dans le fond.
Disons que j'aime l'agriculture, je la respecte beaucoup. Je respecte ses acteurs et ses actrices. Et si j'avais à rechoisir, ce n'est pas un moule, mais refaire le choix de ma carrière, je le referais en agriculture.
Mm-hmm. Parfait. T'encourageais?
Oui. Mm-hmm. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un parler positivement même de l'agriculture.
C'est vrai.
Il semble depuis les derniers temps, à tout le monde que je parle,
c'est vrai.
Mais tu sais, Danick, on m'a déjà qualifié du gars qui est un suroptimiste, puis même un petit peu naïf, etc. Je m'assume, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu sais. Je veux dire, le revenu net, il est volatile, il est en dents de scie. L'agriculture est solide, le bilan de l'agriculture canadienne est solide, notre positionnement commercial à l'échelle internationale, que ce soit le port du Québec ou le... Bon, on produit du stock de grande qualité, les fromages du Québec, etc. Bref, on répond aux attentes de la société et il y a une belle rentabilité qui est générée par l'agriculture, bon an, mal an, même si toutes les années ne sont pas faciles. Alors, j'ai beau paraître optimiste en disant ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pas moi qui sors les chiffres, c'est Statistique Canada. Puis je répète, là, tu sais, ça ne veut pas dire que toutes les années sont faciles. On le voit cette année, là, ça sert. L'agriculture reste solide pareil.
J'aime ça entendre ça.
Ouais.
Ça reste un beau métier, l'agriculture, même s'il y a des années plus difficiles. Je pense que ce qui est difficile, c'est de s'adapter aux lois, s'adapter aux années plus difficiles qu'on a là, puis...
s'adapter rapidement.
Ouais, s'adapter des fois imposé, peut-être un peu trop vite, que tu es comme, hey, donne-nous une couple
d'années. Moi, j'avais pensé à 2 ans, mais là, en fin de compte, c'est là.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est tough.
Ah, le défi d'adaptation, on dit, avec les taux d'intérêt, ça nous est rentré dedans. Tu sais, je veux dire, ouais, c'est arrivé bien plus vite qu'on aurait pensé, puis il y a pas ben de monde qui avait vu venir ça, cette vitesse-là, ce resserrement-là. Le défi d'adaptation, il est majeur.
Tu sais, le... Je ne sais même pas si ça fait un an, on parlait de la récession. Il va y avoir une récession. C'est un où, cette récession-là? On l'a-tu, en fin de compte...
Elle s'en vient-tu
ou on l'a échappé? Non,
ça fait un bout de temps qu'il y en a beaucoup. Il y a même un analyste de mémoire new-yorkais, là, c'est pas vrai, il est québécois, mais il travaille à New York, je ne me rappelle pas son nom. Il parlait d'apocalypse économique.
Ouais, ouais.
Notre économiste, Stéphane, il n'a jamais embarqué là-dedans. Il trouvait que le terme apocalypse était trop gros.
C'est... Ouais, c'est
mais beaucoup d'économistes, beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que l'économie mange une volée plus que ça. Et d'ailleurs, un peu avant Noël, je me suis servi du dessin beaucoup dans The Economist, un grand magazine qui est très, très lu à l'échelle mondiale. Le caricaturiste, il avait dessiné quelqu'un qui marche dans le vide au bout d'un pont. Il y avait plus de pont en dessous de lui. On voulait dire, tu sais, la personne marche là. L'économie tient la route pour l'instant, mais à un moment donné, il va tomber. Or, Simonac, ça semble tenir plus solidement puis plus longtemps que ce qu'on aurait cru. Et les économistes utilisent davantage le mot ralentissement que récession. Là, bref, alors en agriculture, s'il y a ralentissement qui se confirme et que les taux baissent, à quoi on s'attend tous. Il y a consensus dans la communauté économique que les taux baisseront, on l'espère, au mois de juin, peut-être juillet. Ça va faire du bien parce qu'on est un secteur exigeant en capital qui est frappé par la hausse du coût du capital.
Yes. Fait qu'on va s'enligner vers notre segment Patreon parce que là, on a jasé pas mal. Le temps roule.
C'est intéressant.
Ah, ouais, c'est intéressant au bout. Fait qu'on va... C'est sûr, on va aller faire notre Patreon. C'est des questions pour faire un segment Patreon. Je sais pas comment le dire. Là, parce que...
Pour ceux qui veulent nous suivre sur Patreon, il va nous dire le prix du grain dans les prochaines semaines, quand elles se vendent.
Non, je pense pas.
Non, mais...
Vous me faites rire avec ça parce que je sais pas combien de fois... Vous me faites rire avec les enfants. On a une belle conversation. Je sais pas combien de fois cet hiver, moi, j'ai dit que j'étais toujours bien inconfortable à l'idée de prédire surtout le prix des grains. Là, parce que... Puis j'admire ceux qui le font et qui en font un métier. Je les admire et je les lis religieusement. Mais j'ai pas le courage de faire ce qu'ils font. Puis je prends pour exemple souvent les deux derniers grands événements qui ont shaké le marché, comme dirait hier. COVID, bris de chaîne logistique et Russie-Ukraine. C'est très, très difficile à prédire. Mm-hmm. En revanche, il y a d'autres secteurs d'activité où c'est... un petit peu plus sage, plus facile, où on peut peut-être plus prudemment faire des pronostics. Je regarde le secteur du bœuf présentement, là, et les prix sont élevés, très élevés même, puis ça réverbère sur les fermes laitières qui vendent des petits veaux à des prix, ma foi, jamais vus. Ouais. Puis les prix des vaches de réforme, encore, la semaine passée, 1,15 à l'encan à Saint-Hyacinthe. On n'a jamais vu ça. C'est conséquent de l'industrie du bœuf actuellement, où c'est relié à, et il n'y a pas de signal de reconstitution du cheptel. Moi, ce pic de prix-là, À terme, on s'entend, il est intenable. Là. Il n'y a pas de marché qui couvre abondamment. Et clairement, le coût de production comme ça, de façon pérenne, ça n'existe pas dans les marchés libres et ouverts. Fait qu'il faut s'attendre de manière à ce que ça rebaisse, mais probablement que le pic de prix va durer plus longtemps que d'autres pics de prix par le passé.
Good. Fait que merci beaucoup, Vincent.
Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci.
Déjà fini? Ouais,
non, ben, reste le Patreon.
Mais pour vous closer l'épisode, c'est ça. On te remercie beaucoup d'avoir passé, nous éclaircir. Vraiment, c'est intéressant au bout. Là,
ouais.
Parler d'argent, hein, ça nous touche dans la poche, droit au cœur. Ouais, hein,
c'était un grand plaisir. Merci de votre énergie. Merci de votre passion pour l'agriculture, messieurs.
Ah, il en faut une passion.
Ben oui. On aime ça.
Il n'est pas reculé devant aucune question en plus.
Ah, non, c'est ça. Non, c'est bon. C'est super le fun. Fait que, ben, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait pour partager cet épisode-là? Ben, je viens de dire, mais qu'est-ce qu'on fait si on aime cet épisode-là?
On partage,
yes!
Hein, premièrement. On like et on s'abonne aussi. Ouais. On essaie de faire connaître notre podcast le plus possible pour que tout le monde le regarde.
Je pense que c'est un bon sujet qu'on a eu aujourd'hui qui
va toucher
plus. C'est tout le temps des bons sujets, mais je veux dire, c'est bon à en apprendre.
Ouais. Puis ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde agricole ces temps-ci, je pense que ça éclaircit encore plus pourquoi vous le faites. Puis, fait que...
Non, c'est super good. Fait que... On remercie nos commanditaires.
Exact. Je pensais laisser les dire à Martin cette fois-là.
Ah ben oui, ouais. Vas-y Martin.
Les équipements Lapierre.
Ouais.
Faneuf.
Ouais.
KCH. Puis...
T'es habillé par...
C'est vrai.
Il est habillé?
Ben oui, j'ai mis celle-là aujourd'hui. En plus, en passant, on est tous
ben,
en
bas. C'est ce que j'avais remarqué moi aussi.
On s'est même pas parlé.
Non. Oui, on est commandité par... On est habillé et commandité. Rollback.
Yes. Ben oui.
Qui font du beau linge.
Ouais. Yes. Puis à Manger.
On restocke dans Pallon.
Comment?
On restocke dans Pallon.
Ben oui. Avec la bière effondrant, récolte des cantons.
Yes.
Dans les commanditaires. Et non la moindre.
Ben oui. Non, merci beaucoup à tous nos commanditaires. Grâce à eux autres, on est là aujourd'hui. Puis on peut recevoir des bons invités.
Ouais.
Ouais.
Merci pour l'invitation, monsieur.
Yes. Ok, merci beaucoup tout le monde. Puis on se dit à la prochaine.